une consommation rapide et acritique des informations diffusées par les médias pourrait amener à croire que l'Europe est, depuis cet été, envahie par une avalanche incontrôlable des migrants du Sud. On se scandalise des bateaux qui naufragent en Méditerranée, du malheur des passagers allant jusqu'à la mort et du cynisme des passeurs allant jusqu'à 8000 euros par traversée individuelle. Parmi les dizaines de millions de personnes qui fuient actuellement la guerre, la pauvreté et les persécutions à l'échelle globale, les ressortissants syriens occupent sans aucun doute une place spéciale. Leur exode est le plus massif depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une guerre sanglante a détruit et continue à détruire le pays au moment même où ces mots sont prononcés. L'exode syrien est au centre du traitement médiatique de la crise des réfugiés. Mais pourquoi tant de Syriens décident-ils de quitter leur lieu de résidence ? À l'échelle macroscopique, la seule réponse possible est certainement la guerre. Mais à l'échelle microscopique, la réponse risque de se diversifier selon la position géographique, les caractéristiques sociales ou les convictions religieuses de ceux qui font le choix drastique de partir, sans compter leur positionnement dans le conflit interne. Une fois le choix fait, où ces personnes vont-elles ? Quelles sont les destinations préférées et pour quelles raisons ? Peut-être l'Europe n'occupe-t-elle qu'une position somme toute marginale dans ce panorama ? Enfin, comment l'installation dans le lieu de destination se déroule-t-elle ? Que savons-nous des conditions de vie des réfugiés syriens en France et ailleurs ? Les Voix du Crépuscule se proposent d'aborder ces questions en compagnie de nos invités Giulia Galluccio, diplômée en arabe réalisant une thèse sur la Syrie, et Aboud Hadjar, architecte et docteur en urbanisme d'origine syrienne. Le cas de la Syrie nous permettra dans un second temps de tracer des parallèles avec la situation des réfugiés maliens depuis le déclenchement de la guerre du Mali en 2012.
Les Voix du Crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
Depuis 2011, la Syrie est déchirée par une guerre civile sanglante qui a coûté la vie à plus de 250 000 personnes. Ce conflit, comme la guerre du Mali ou le totalitarisme en Érythrée, est à l'origine de mouvements migratoires très importants à l'échelle globale. Pour répondre aux défis posés par ce contexte mouvementé, partout les gouvernements adoptent des mesures d'urgence. Ainsi, la France, divisant le monde entre des réfugiés gentils et des migrants méchants, s'apprête en septembre 2015 à accorder le statut de réfugié à 24 000 demandeurs d'asile de plus par rapport aux prévisions. Un chiffre sans doute impressionnant vis-à-vis des 166 réfugiés syriens que le Royaume-Uni a accueillis entre juin 2014 et juin 2015. Mais un chiffre modeste, sinon dérisoire, face aux 800 000 réfugiés prévus par la chancelière allemande Angela Merkel au cours seulement de 2015, dont environ 250 000 en provenance de la Syrie. La générosité de la Bundeskanzlerin doit être pourtant mise en perspective, non seulement au vu de l'intérêt bien réaliste de l'Allemagne vieillissante à rajeunir sa démographie, mais aussi au regard des 600 000 Syriens qui se sont réfugiés en Jordanie, pays limitrophe situé au sud de la Syrie. À l'heure actuelle, en effet, un habitant sur 11 en Jordanie est un réfugié syrien. De quoi faire tomber la mâchoire si seulement on pouvait ignorer qu'au Liban, pays également voisin de la Syrie, un habitant sur 5 est aujourd'hui un réfugié syrien dont le nombre total dépasse par ailleurs le million. Seule la Turquie, qui partage 800 km de frontières avec la Syrie, dépasse ces chiffres avec près de 2 millions de réfugiés syriens sur son sol. On s'accorde pour affirmer que le nombre total des réfugiés syriens s'élève à cette date à plus de 4 millions. Un chiffre dramatique, mais qui ne reflète pas entièrement la réalité encore plus déchirante de l'exode syrien. Car autre 7 millions de personnes ont migré à l'intérieur de la Syrie à cause du conflit. Ce qui nous laisse avec 11 millions d'âmes ayant quitté leur lieu de résidence depuis le début de la guerre civile en 2011, chiffre équivalent à la moitié de la population syrienne. Pour prendre la mesure de cet exode massif, imaginez ce que deviendrait la France si 33 millions de Français se mettaient soudain à migrer. Et pour prendre la mesure de l'engagement concret de la France dans le drame syrien, imaginez ce que vous ressentirez si, de ces 33 millions de Français imaginairement mis à l'exode, une Syrie démocratique et pacifique n'en accueillait que 0,2%. Nous sommes ce soir donc avec Giulia Galluccio, diplômée d'arabe et doctorante à l'EHESS travaillant sur la Syrie, et avec Abou Hadjar, architecte et docteur en urbanisme et d'origine syrienne. Avant de lancer l'entretien, on aimerait bien connaître un peu plus ce sur quoi vous travaillez. Donc, Julia Galouch, je vous demande, pourriez-vous résumer en quelques lignes votre sujet de thèse ?
Merci Martine pour cette présentation et cette invitation surtout. Et donc oui, je travaille sur la Syrie. J'ai fait un mémoire au cours de mon Master 2 à Paris 8 sur le rôle des acteurs régionaux et internationaux dans le conflit syrien. Je me suis intéressée à comment, disons, les acteurs mobilisaient les catégories pour définir le conflit. Donc, ils passaient de la définition d'une guerre civile à guerre au terrorisme, à une révolution. Bref, les définitions étaient différentes. J'ai donc décidé d'entamer une thèse sur les productions médiatiques nationales et transnationales à l'épreuve du conflit syrien, en prenant comme cas d'étude la bataille d'Al-Qusayr, car c'est un tournant important dans l'évolution du conflit. Et donc je travaille sur les médias nationaux, transnationaux, et aussi les nouveaux médias. Voilà.
Merci Julia Galluccio. Abou Hadjar, vous êtes donc architecte.
Tout à fait
architecte.
Tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier Martine de cette invitation à votre antenne. Donc, comme vous m'avez présenté, je suis architecte de formation. J'ai fait toutes mes études d'architecture en Syrie à Alep. Je suis originaire de la ville d'Alep. En 2009, grâce à une bourse de coopération franco-syrienne, je suis venu en France et j'ai fait un master en génie urbain à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialité développement urbain durable. Ensuite, en 2010, j'ai enchaîné une thèse. L'idée, c'était de proposer un cadre de réflexion autour des projets urbains durables en Syrie. Donc, en 2010, la Syrie, c'était un pays en pleine croissance. Donc, l'idée, c'était de développer un cadre méthodologique. Mais après, j'étais amené à évoluer ma problématique en fonction du contexte mouvant de la Syrie. Donc, au départ, on était face à une crise pendant laquelle il y avait des manifestations dans les rues, des manifestations de contestation. Ces manifestations se sont transformées en véritable guerre qui touche les grandes villes, surtout la ville d'Alep, qui est très impactée par la guerre syrienne. Donc voilà, à la fin, je vais proposer une première réflexion sur la stratégie de reconstruction en Syrie pour la phase post-guerre.
Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le conflit parce que, en effet, afin de mettre en contexte les flux migratoires dont on va parler dans la suite de l'émission, on pourrait peut-être rappeler brièvement la nature du conflit syrien pour ceux qui ne le connaissent pas assez. Julia Galluccio, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, je vais essayer d'être de retracer, disons, les événements qui ont encouragé, disons, ces flux qui n'ont pas été constants. Au mieux, ils ont été constants dans la mesure qu'ils changeaient selon, disons, les événements et la gravité et la radicalisation du conflit. Donc, en 2011, comme tout le monde le sait, les manifestations ont commencé en mars 2011, les grandes manifestations. Partout dans les villes de la Syrie. On parle donc le 15 mars est reconnu comme la date qui marque la révolution en Syrie.
Quelles étaient les revendications de ces manifestations ?
Les revendications sur la liberté d'expression, plus d'ouverture économique, de libéralisation, aussi par rapport à Internet, donc éviter les blocages de Facebook, etc. Et donc voilà, de s'ouvrir un peu plus. Et ce sont surtout les quartiers pauvres des banlieues, disons, de la Syrie, notamment Deraa, qui se sont manifestés en premier. Et puis d'autres villes, de plus en plus, le mouvement, disons, a été viral, disons. Voilà. Et surtout aussi sur le, dans le contexte du printemps arabe, qu'il ne faut pas oublier, qui a commencé en Tunisie en décembre 2010. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, déjà en juin 2011, donc après, disons, 3 mois de protestations pacifiques, Salmiya, donc le mouvement de la non-violence, pardon. Bah déjà après 3 mois, des déserteurs de l'armée syrienne officielle, donc de l'armée du régime, ont commencé à déserter devant les massacres ou les fusillades, disons, à tout le monde sans, disons, exclusion de, voilà, de femmes, enfants. Et donc il y a les premiers déserteurs qui vont donc laisser les armes ou mieux les utiliser pour protéger la population. Il y a aussi les premiers flux migratoires au sud de la Turquie et ces camps de réfugiés, en fait, voilà toute l'ambiguïté ici dans cette première phase. Ces camps deviennent des camps non seulement pour les réfugiés et pour les civils, mais aussi pour les officiers. Donc ce sont des sanctuaires humanitaires qui sont créés, mais aussi militaires. Et donc dans cette première phase de la révolution, en juin 2011, les premiers flux de quelques milliers de personnes vont se réfugier déjà en Turquie. L'année 2012 est caractérisée par une augmentation de tensions dans tout le pays, mais surtout dans la frontière turco-syrienne, donc une frontière, comme tu as dit, qui est de 800 kilomètres. Et cette augmentation donc est due aussi à l'encouragement et l'aide de Ankara envers l'opposition syrienne. La Syrie évidemment n'apprécie pas. Et en outre, c'est aussi l'année où les groupes djihadistes vont commencer à s'infiltrer dans le pays. Donc la peur aussi que ces groupes puissent s'infiltrer dans les camps de réfugiés, de là aussi le contrôle d'Ankara envers les camps est très fort, on va en parler peut-être plus tard. Et l'année 2012 marque aussi disons que les massacres se font de plus en plus fréquents, malheureusement, et les massacres du régime. Et donc les flux migratoires s'intensifient et ces premiers flux se dirigent surtout dans les pays limitrophes, donc en Turquie notamment, où il y a aussi l'opposition, mais surtout aussi au Liban, en Jordanie, en Irak et en Égypte. En août 2013, il y a un grand choc, non seulement pour la communauté internationale, mais aussi pour la population qui a de plus en plus effrayé. C'est l'utilisation des armes chimiques de la part du président Bachar al-Assad sur la population qui a causé beaucoup de peur. Et un deuxième flux peut être, disons, raccroché à ce tragique événement. Les Européens commencent à se préoccuper et parler d'intervention, mais cette intervention ne se fait pas. En 2014, al-Baghdadi, chef de l'organisation de l'État islamique, se proclame calife. Voilà que l'État islamique s'entame aussi en Syrie. Et les flux migratoires deviennent de plus en plus importants. Enfin, la coalition internationale intervient, donc la coalition des États-Unis avec l'Union, certains membres de l'Union européenne. Et enfin, on arrive en 2015 où la photo du petit enfant Aylan sur les plages turques a ému la communauté européenne qui a décidé d'intervenir aussi sur du point de vue des réfugiés, de proclamer et de mobiliser les réfugiés aussi dans les discours, donc d'offrir leur accueil aux réfugiés. Ça, ce sont, disons, les étapes qui ont caractérisé les flux migratoires.
Merci pour cet éclairage. Abou Hadjar, je voudrais vous poser une question de sociologie des migrations. Donc, d'après ce que vous avez pu voir, quel est le profil des personnes qui partent, et notamment par rapport au moment du départ, c'est-à-dire l'étape du conflit au moment où on décide de partir, et par rapport aussi aux destinations. Je voulais notamment vous demander s'il y avait par exemple des profils sociaux, religieux particuliers, si la migration ou si la nature de la migration dépendait en partie du positionnement dans le conflit ou aussi de sa localisation dans la géographie du pays.
Oui. Juste avant de répondre à votre question, j'aimerais bien aborder un point qui est très important. Moi, j'aimerais bien intervenir aujourd'hui en tant que Syrien qui habite en France, qui a un ressenti, qui connaît des Syriens. Donc, plutôt apporter aux auditeurs de votre radio le vécu des Syriens qui sont dans la misère, dans cette crise des réfugiés. Donc, pour répondre à votre question, tout d'abord, le contexte des réfugiés, la notion des réfugiés est connue par les Syriens depuis... depuis longtemps. La Syrie, avant d'être un territoire qui génère des réfugiés, était un territoire d'accueil. Était un territoire d'accueil pour les réfugiés. On a accueilli les rescapés du génocide arménien effectué par les Ottomans. On a accueilli les réfugiés palestiniens après les guerres, les réfugiés libanais après la guerre de juillet 2006 et les Irakiens après la guerre de 2003. Donc les Syriens savent c'est quoi d'être un réfugié, c'est bouleversant. C'est bouleversant, c'est quand on voit les photos du chemin de l'exode des Syriens en ce moment, c'est agaçant. Quand on voit, en tant qu'architecte, quand je vois un patrimoine qui est inscrit parfois au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme la ville de Palmyre, l'ancienne ville d'Alep, c'est très bouleversant. Donc, pour le départ des réfugiés, ça concerne tout le monde. Moi, je pense que, parce qu'il y a déjà le facteur de la guerre, comme vous l'avez dit. Donc, il y a la continuité de la guerre syrienne. Il y a des villes qui sont ravagées par la guerre, comme Kobané, par exemple, où il ne reste que des ruines. Donc, les gens étaient obligés, de n'importe quel groupe social, étaient obligés de quitter, d'aller trouver un autre endroit plus calme, plus sûr. Sachant qu'il existe parfois une sorte d'exode, ou plutôt de migration qui concerne certains groupes sociaux ou socio-confessionnels, par exemple, et cela est lié au facteur de la peur, par exemple, comme la problématique des chrétiens d'Orient. Avec la montée en puissance de l'État islamique, ces chrétiens ont peur et donc du coup ils décident de quitter la Syrie et aller dans d'autres endroits. Donc voilà, donc ça c'est une autre raison de quitter le lieu de résidence en Syrie. Je suis tombé sur un article qui est intéressant dans Le Monde, a été publié le 24 octobre 2015, signé Benjamin Barthé, où il précise les quatre raisons pour lesquelles les Syriens prennent le chemin d'exode. Donc, il y a la guerre, l'intensification du conflit, les restrictions croissantes imposées par les pays voisins, par exemple le Liban a imposé un visa pour entrer au territoire libanais, la campagne de conscription militaire. Il y a des jeunes hommes qui ont peur de joindre l'armée pour le service militaire, donc ils fuient. Il y a aussi l'épuisement de l'aide humanitaire. Donc voilà les raisons pour lesquelles les Syriens quittent la Syrie. En ce qui concerne les destinations et les itinéraires, il existe plusieurs itinéraires. Donc, le premier qu'on connaît, c'est qui concerne les réfugiés qui sont déjà installés en Turquie, ou plutôt les réfugiés en provenance aussi de Syrie et qui cherchent des passeurs afin de rejoindre la Grèce par des bateaux, par exemple. Et le tarif varie en fonction de service. C'est-à-dire, le moins cher, c'est un bateau pneumatique avec 800 euros. Et le plus cher, c'est 8 000 euros avec un yacht touristique, un yacht touristique. Donc, après, les Syriens continuent dans le chemin d'exode vers d'autres, en passant par les pays de l'Europe de l'Est, vers l'Europe occidentale, l'Allemagne, la Suède, et la France.
On aura l'occasion, Abou Hadjar, d'aborder la question des itinéraires dans la deuxième partie de l'entretien, mais tous les détails que vous évoquez sont extrêmement importants. Émile, il me semble que vous aviez une question.
Oui. Mais en fait, Abou Hadjar, je suis un peu frappé par la situation qui est la vôtre. C'est vrai que c'est une situation... Je me mets à votre place. J'essaye de me mettre à votre place, au moins sur un versant de votre statut. Pas celui de Syrien, parce que je ne le suis pas et je ne peux pas le faire, mais celui de doctorant. Vous êtes doctorant, on est d'ailleurs de la même université. Et j'imagine que ça doit être quelque chose quand même de partir dans un pays pour faire une thèse sur le développement durable et l'urbanisme durable, de voir son pays, en quelques années, se retourner, être ravagé par la guerre, et de devoir se dire comment rendre ma réflexion, comment rester en prise avec la réalité de mon pays. Donc vous avez dû transformer votre sujet de réflexion par la force impérative des événements.
Tout à fait. Et ce n'était pas facile. Surtout qu'il y a un côté, sentimental très important. Je ne peux pas ignorer la présence d'une crise syrienne dans ma vie. Même si moi j'habite en France, mais j'ai des proches, j'ai une famille, et donc cela m'a impacté. Au-delà des difficultés scientifiques, de recherche, on sait bien que le changement de contexte dans une thèse de doctorat, c'est pas très facile à résoudre. Donc voilà, c'était une difficulté de plus d'être syrien. En même temps, ça m'a donné un regard différent que le regard classique de n'importe quel chercheur. J'ai un prisme particulier, un prisme qui a été élaboré et qui regroupe mon point de vue en tant que Syrien et mon point de vue en tant que chercheur dans une université française.
Et avant d'écouter la chronique d'Émile qui va suivre, je voulais demander à Giulia Gallucci s'il pourrait nous expliquer rapidement depuis quand en fait les djihadistes sont impliqués dans le conflit syrien. Parce qu'au début, on n'entendait pas parler d'eux. Et tout se passe comme si au bout d'un moment, ils s'étaient d'une certaine manière infiltrés.
Oui, mais en fait, tout dépend aussi de qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. Et c'est surtout l'usage de ces catégories qui est partie de l'enjeu du conflit. Jabhat al-Nusra, par exemple, n'a pas été décrit en tant que groupe terroriste par l'armée syrienne libre, mais qui, par contre, elle était légitimée par les États-Unis et reconnue comme légitime par presque toute la communauté internationale, même si ce terme de communauté internationale est un peu vague. Mais voilà, pour, disons, être bref. Et donc, c'est un enjeu. Mais donc, voilà, on est dans ce paradoxe pour lequel l'armée syrienne libre est légitime pour les États-Unis. Elle a besoin de groupes armés qui la soutiennent parce que les forces de régime sont très puissantes. Ces forces l'aident, mais voilà, elles ne sont pas reconnues comme elles légitimes. Donc ça crée un chaos. Elles sont en tout cas présentes depuis 2012. Et disons, si on veut voilà, reconnaître Jabhat al-Nusra depuis son allégeance à l'Al-Qaïda, qui était en décembre 2012, et disons que la temporalité et la chronologie dans ce conflit est très importante, est très importante à considérer. Mais je tiens à souligner que les Syriens ne partent pas de la Syrie que pour l'État islamique. Les Syriens partent parce que la répression est très forte. Le fait que la Russie soit intervenue à la fin de septembre 2000, le 30 septembre 2015, donc il y a 22 jours, a changé la perception des Syriens. Les Syriens se rendent compte que le conflit n'est pas destiné à terminer maintenant, que la coalition internationale est faible, que la Russie maintenant est aussi sur le sol et que la Russie donne un appui énorme au président Bachar al-Assad qui cible non pas que les groupes terroristes, mais tous les groupes armés. Et tous les groupes armés, ça veut dire aussi l'armée syrienne libre, ça veut dire aussi les groupes, les milices qui soutiennent l'armée syrienne libre, mais qui ne se reconnaissent pas sous le chapeau politique de cette armée, et donc qui n'ont pas la tenue militaire et donc sont difficiles à reconnaître. Donc il y a vraiment des problèmes de ce genre aussi qui se posent. Donc les Syriens ne sont pas partis que pour l'arrivée de ces groupes.
Du djihadisme, effectivement. Voilà. On voit bien donc que la catégorie terrorisme est très problématique et c'est précisément pour cette raison que Émile nous a préparé une chronique sur l'histoire du terrorisme.
Oui, voilà, absolument. Donc je vais vous parler de deux livres, plus spécialement d'un livre qui vient de sortir chez Fayard, qui s'appelle sobrement « Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh ». Voilà, c'est un gros pavé, un ouvrage collectif sous la direction de Gérard Chalian et Arnaud Blin. Alors, ce sont des spécialistes de politique internationale, donc formés à la science politique, voilà, la manipulation des grands textes, de la stratégie, la lecture de Clausewitz, etc. Donc vous trouverez votre compte si vous avez envie de théorie, mais ce n'est pas ça qui fait l'intérêt de ce livre. Même si je ne suis pas là pour en faire la promotion, je suis là simplement pour en faire une critique par rapport au sujet d'aujourd'hui. Ce qui fait l'intérêt, c'est que Gérard Chalian, c'est quand même un personnage assez original, qui est en fait un guérillero, théoricien guérillero, qui a participé au cours de sa vie, en tant qu'observateur participant des guérillas des pays de décolonisation, donc à de multiples guérillas de libération, donc à celle de la Guinée-Bissau avec Amilcar Cabral, à celle de beaucoup plus tard de l'Érythrée, mais aussi il a formé, collaboré avec les Kurdes, il a collaboré à différentes guérillas latino-américaines. Au début, quand la Palestine était encore dans une stratégie de guérilla, il a aussi collaboré avec eux. Donc, si vous voulez, c'est à la fois un praticien de la guérilla et un universitaire. Donc, c'est un personnage assez étonnant. Et vous voyez dans sa façon d'écrire qu'il ne prend pas du tout la même position que les universitaires habituellement. Il juge l'efficacité de ceux qui prennent part à des mouvements. Et il a une formule laconique pour distinguer le terrorisme de la guérilla. Il dit si la guérilla est l'arme des faibles, le terrorisme est l'arme des très faibles. Et d'un point de vue stratégique, ça permet de comprendre comment est-ce que les mouvements terroristes naissent. Il fait un résumé en quatre dates du terrorisme djihadiste. Quatre dates qui, selon lui, sont des jalons de l'histoire de l'islamisme radical, qui n'a pas produit d'attentats, disons, avant 1980, d'attentats terroristes dans la formule moderne, donc contre des civils non directement impliqués, à une vocation publicitaire et qui a plus pour intérêt de terroriser une population par le biais des médias que d'avoir un véritable impact en termes d'objectifs stratégiques. Et donc ça, pour lui, ça n'existe quasiment pas avant les années 80, c'est-à-dire avant le basculement de 1979. La date clé de cette histoire, c'est 1979. Avant celle-là, je vais y venir, il y a 1968. Deux matrices du terrorisme radical islamiste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a d'abord la matrice latino-américaine et ensuite la matrice palestinienne. Selon lui, la matrice latino-américaine montrera comment les guérillas urbaines vont échouer et donc comment est-ce qu'on transite d'une guérilla urbaine qui ne fonctionne pas à des actions de terrorisme ponctuelles, très publicitaires et qui ont pour vocation d'impacter les populations. Et c'est la même chose qui se passe du côté palestinien avec l'interception d'un avion, je ne sais plus exactement, c'est le moment où il y a des personnes très informées dans le public qui sauront combler mes trous de mémoire. Mais donc, 1968, c'est aussi la fin de la guerre des six jours, enfin, juste après la guerre des six jours, qui marque la suprématie militaire d'Israël dans le monde arabe. Et ça va être important parce que ça va se poursuivre après avec la guerre du Kippour en 73 et les accords de Camp David en 78 qui vont définitivement asseoir la domination d'Israël dans le monde arabe. Donc, on en arrive à la deuxième date, 1979, triplement importante. Importante pourquoi ? Parce que c'est la signature, après les accords de Camp David, du traité de paix israélo-égyptien. Ça veut dire que l'Égypte, qui était du camp, on va dire dans le contexte général de la guerre froide, l'Égypte, qui était du camp soviétique, passe dans le camp américain. La seule grande puissance militaire capable de s'opposer militairement à Israël est définitivement hors jeu. Donc, l'option militaire contre Israël, à partir des accords de Camp David, elle est définitivement invalidée. C'est donc une piste naturelle pour le développement des attentats suicides et du terrorisme djihadiste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça, c'est la première raison en 1979. La deuxième raison, c'est bien sûr la révolution islamique chiite en Iran. Parce que la mainmise des Américains sur l'Iran est balayée, et d'un côté, et de l'autre côté, le chiisme se trouve doté d'un prestige, le chiisme dans sa version radicale, se trouve doté d'un prestige qui inquiète beaucoup l'Arabie saoudite et les États du Golfe, qui voient la mainmise, en tout cas idéologique et religieuse, de l'Arabie saoudite, de l'Iran sur le monde arabe, comme une ombre à leur puissance. Donc va s'engager une compétition pour la suprématie du monde musulman entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et donc, on va financer des mouvements radicaux un peu partout dans le monde pour garder cette suprématie. Ça, c'est la deuxième matrice. Et il y a évidemment la troisième matrice en 1979, c'est l'intervention soviétique en Afghanistan. Après cette intervention soviétique, on sait ce qui va se passer. Les États-Unis vont financer les talibans, vont d'une certaine façon jouer avec aussi le mouvement Al-Qaïda qui va venir pour défendre les talibans, vont donc manipuler l'islamisme radical pour lutter contre l'Union soviétique. Sauf que, évidemment, ce jouet va leur tomber des mains et va finir par se retourner contre eux. C'est l'objet de la troisième date de cette histoire du terrorisme à très grande vitesse. C'est 91-93. C'est le moment où Al-Qaïda et les mouvances islamistes radicales s'autonomisent par rapport aux États-Unis. N'oublions pas qu'en 93, il y a le premier attentat contre le World Trade Center. Un petit attentat à la voiture piégée, pas très réussi sur le plan des dommages, mais déjà, les États-Unis sont une cible des islamistes radicaux. Et évidemment, dernier moment de cette histoire à grands pas, mais qui s'attarde un peu, c'est le 11 septembre 2001. Pourquoi le 11 septembre 2001 ? Non seulement parce que c'est 19 hommes qui en tuent 3000, donc c'est un attentat d'une efficacité terrible sur le plan des dommages humains, des dommages matériels, mais surtout des dommages psychologiques. C'est définitivement, la Pax Americana est enterrée, on a basculé dans un autre monde, le 21e siècle est là. Et qu'est-ce qui se passe ? La plus grande expédition punitive est lancée par les États-Unis, qui engage la guerre d'Afghanistan et ensuite une deuxième guerre du Golfe en Irak, qui va être la cause directe de l'émergence de tous les mouvements qui aujourd'hui détruisent la Syrie et l'Irak. Alors, je vais m'arrêter là pour cette chronique. Il faudrait rentrer dans les détails. Ce livre le fait, et pour ça, il vaut le coup, tout de même, parce que c'est fait de façon très précise et pas trop jargonnante. Mais j'espère que nos invités pourront compléter pour la partie qui concerne, à proprement parler, Daesh en Syrie et Al-Nusra et Acmi aussi au Mali, puisqu'on va vous parler un peu plus tard des réfugiés maliens.
Merci Émile pour ces éclairages sur l'histoire du terrorisme. Et pour conclure cette première partie de l'émission consacrée aux raisons de départ des réfugiés syriens, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview que Pascal a menée auprès de Houssam, un réfugié syrien en France.
La première raison, c'est pour la guerre, là, les très moches. Il y a beaucoup de morts, les gens aujourd'hui morts, et beaucoup de blessés. Il n'y a pas comme raison plus intéressante comme ça.
Tu fuyais un camp particulier, les rebelles ou Bachar al-Assad ou Daesh?
Oui, bien sûr, c'est la raison de Bachar al-Assad. Emprisonner les étudiants. Et quand on fait les manifestations après les cours, les polices ils viennent et tuer les étudiants comme ça, c'est normal. Et après, je suis en fille au Jordanie pour continuer mes études. Et je reste en Jordanie 12 ans. Et après, c'est difficile pour continuer à l'université, parce qu'aujourd'hui, l'université, c'est très cher et c'est très compliqué. Et voilà, j'ai choisi la France parce que la langue française est très facile et très jolie, sympathique comme ça, que les autres pays.
Tu avais déjà de la famille en France ?
Non, c'est la première fois.
Personne, pas un oncle, pas de cousin ?
Non, 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 pas du tout.
Tu viens de quelle ville ?
D'Alep.
Les voix du crépuscule. Anthropologie du Paris cosmopolite.
Après avoir consacré la première partie de cette émission aux raisons que poussent les ressortissants de la Syrie à quitter leur pays et parfois à quitter leur ville pour s'installer ailleurs dans le même pays, nous allons maintenant nous attarder sur la nature de l'exode lui-même, c'est-à-dire la traversée, le voyage. Pour entrer en matière, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview que Pascal, à nouveau, a mené auprès de Brigitte Tonon de l'ONG Première Urgence, qui s'occupe de réfugiés, entre autres syriens, en France.
On estime à peu près le temps de voyage entre 2 semaines et 1 mois à partir de la Syrie. Les trajets peuvent être différents en fonction de chaque personne. Cependant, la route migratoire, en passant par la Turquie, puis par les Balkans, est quand même très fréquemment mentionnée. Les gens disent avoir fait une grande partie du trajet à pied ou en voiture. Et via passeur, ça je ne pourrais pas vous le dire, vous confirmer. Mais en tout cas, on sait que ce trajet est quand même très, très perturbant pour cette population qui est en perpétuel mouvement, en fait. Hein. Les gens ont vraiment... sont constamment sur le départ. Donc même sur les points où ils vont s'arrêter, par exemple en Serbie, les personnes vont être toujours en train de penser à leur prochaine destination.
Boudhadjar, est-ce que ce témoignage, est-ce que cette analyse vous a fait penser à quelque chose ?
Oui, ça m'a fait penser à plusieurs personnes que je connais, et qui sont partis d'Alep ou d'autres villes en Syrie vers l'Europe ou vers d'autres continents aussi. Il y a d'autres destinations comme les États-Unis, le Canada, l'Australie. Même dans certains pays, en Amérique latine aussi, il y a des Syriens qui choisissent des destinations très très loin de la Syrie.
Je vous pose une question. Quelles sont ces préférences ? Quelles sont les destinations préférées, les moins préférées ? Et surtout, est-ce qu'il y a eu une évolution de ces préférences au fur et à mesure que le conflit évoluait ?
Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, je trouve que... les destinations évoluent avec l'évolution du conflit. Donc, au départ, comme Julia disait, les Syriens décidaient de partir en Turquie, au Liban. Et ensuite, ces deux pays se sont transformés en pays de transit, donc vers d'autres pays, l'Europe. Moi, je classe les réfugiés... Parfois, je n'arrive pas à trouver le terme, parce que même... À travers les médias, il y a une sorte de confusion médiatique liée à la sémantique entre réfugiés et migrants. On le mélange.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste la différence ?
Pour moi, un migrant, c'est un choix. Un réfugié, la personne était obligée de quitter son territoire. Par contre, il y a une distinction bien établie entre déplacé et réfugié. Cela peut-être est lié à la définition d'un réfugié selon la convention de 28 juillet de 1951 relative au statut de réfugié. Donc, en Syrie, il y a des déplacés internes. Donc, il y a les déplacés et les réfugiés. Et les déplacés peuvent être classés en deux catégories. Donc, des déplacés qui restent dans les mêmes agglomérations Cela concerne plusieurs villes syriennes, comme la ville d'Alep, par exemple. Une ville divisée en deux parties. En ce moment, la partie est, composée de quartiers d'habitats informels, de quartiers pauvres, précaires, et qui font l'objet d'une destruction massive. Donc, les gens de ces quartiers étaient obligés d'aller dans la partie ouest pour chercher un endroit sûr et calme. Il y a d'autres types de déplacés qui quittent leur ville vers des endroits calmes, mais dans d'autres muhafazas. Muhafaza, c'est l'échelle administrative territoriale en Syrie qui est l'équivalente à, c'est équivalent au département en France. Par exemple, vers la zone côtière en Syrie de Latakia et Tartous. Après, il y a des réfugiés qui quittent le pays vers le Liban, la Turquie, même l'Irak.
Est-ce qu'il y aurait des...
Le Kurdistan d'Irak, il y a des réfugiés syriens en Irak, par exemple. Oui.
Excusez-moi, est-ce qu'il y aurait des tendances qui expliqueraient pourquoi on devient déplacé peut-être dans la même ville ou dans le pays où on choisit alternativement de migrer à l'étranger, parfois d'aller vers un pays limitrophe et de partir éventuellement aussi loin que l'Europe. Qu'est-ce qui explique ces différents choix ?
Ça, on peut expliquer justement ça par plusieurs biais. Déjà, les gens qui quittent la Syrie, par exemple, vers le Liban, je connais quelques familles, ils s'installent au Liban en espérant que la crise syrienne va prendre fin prochainement. Et après, faute de manque de ressources financières, et le Liban, c'est un pays qui ne peut pas proposer aux réfugiés des services ou des services qui sont acceptables par...
Est-ce que c'est le cas aussi de la Turquie ?
Oui, de plus en plus, en fait, et c'est tout à fait normal, parce qu'on parle de 2 millions Syriens qui sont déjà installés en Turquie, soit dans les camps des réfugiés, soit en dehors des camps. Et donc, pour moi, je trouve que ces 2 millions sont plutôt des candidats à l'exode, des candidats au voyage vers l'Europe, vers... d'autres pays qui pourraient donner le statut d'asile pour ces gens.
Giulia Galluccio, je vous pose une question. Dans les échanges que vous avez pu avoir avec des Syriens, quelle est la réputation de l'Europe et quelle est la réputation de la France en particulier aux yeux des Syriens que vous avez pu rencontrer ?
C'est pas leur principal souci, disons, de donner des jugements. Je pense qu'ils pensent à d'autres. Mais je peux vous donner mon opinion, modestement. C'est un peu embarrassant, cette situation, je trouve. C'est un peu, un peu une frustration d'être européenne en ce moment, parce que c'est. On a tous signé la Convention de Genève de 1951, dont Abu Dajjar a parlé. Et paradoxalement, les pays qui ne l'ont pas signé, comme le Liban, qui fait que 4 millions d'habitants, qui est un pays assez petit, et il ne l'a pas signé justement, pardonnez-moi, pour des questions politiques internes, je ne sais pas, mais en tout cas, se retrouve avec 1 million et deux presque de réfugiés. Et en tout cas, donc ça c'est un peu. C'est un peu triste, de voir ce genre de fait. La Turquie, elle a signé la convention, mais la Jordanie, par exemple, qui héberge 650 000 réfugiés, ne l'a pas signé non plus. Les pays du Golfe ne l'ont pas signé. Et ce sont les pays qui donnent plus de financement, les pays du Golfe, parce que sauf les Émirats arabes unis qui ont accueilli quelques milliers de réfugiés, les autres pays du Golfe n'ont pas accueilli les réfugiés. Oui.
Oui, non, mais excusez-moi. Oui.
Non, et juste, ça, ce sont des données qui font comprendre que les Européens parlent beaucoup, surtout après le scandale du petit enfant sur les plages turques que j'ai évoquées. Mais après, dans les faits, ne font pas beaucoup.
C'est pour ça qu'Emile a fait une petite recherche. sur des données factuelles qu'il va donc nous présenter.
Oui, je suis allé sur le site du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies pour voir où en étaient les statistiques officielles des réfugiés. Donc, au 19 octobre 2015, on compte 4 180 631 réfugiés syriens comptabilisés. Pour donner les chiffres aussi, pour appuyer ce que vous disiez sur la générosité toute relative de l'Europe et surtout de la France, voici parmi ces 4 180 631 réfugiés, la répartition des 513 000 réfugiés qui sont arrivés en Europe entre avril 2011 et septembre 2015. Donc 513 000 seulement. Alors que la Turquie en compte 2 millions, le Liban plus d'un million, l'Irak 250 000, la Jordanie 630 000 et l'Égypte 128 000. Donc, en Europe, la situation est la suivante. Par ordre, je ne vais pas dire de générosité, ça n'a pas beaucoup de sens, vous pourrez comparer à plein de ramener tout ça à la population. Je vais faire simplement par nombre de réfugiés par pays européen. Allemagne, 125 000. Serbie, 110 000. Suède, 80 000. Hongrie, 54 000. Autriche, 24 000. Hollande, 22 000. Bulgarie, 16 000. Danemark, 13 000. Suisse, 9 600. Belgique, 8 230. France, 8 050. Norvège, 7 845. Royaume-Uni, 7 500. Espagne, 6 250. Italie, 2 160. On peut continuer après, ça descend encore. Donc vous voyez que c'est vrai que la remarque que vous faites sur la générosité toute relative de l'Europe est particulièrement spectaculaire en ce qui concerne le volume de réfugiés accueillis par la France. Par contre, j'avais juste une question concernant l'aide des pays du Golfe, oui. Parce que ça a fait aussi quand même polémique. On a l'impression qu'ils préfèrent aider par l'argent que par l'accueil.
Oui, bah oui, c'est exactement comme ça. C'est bah disons que cela fait aussi partie de considérations et de calculs que chaque gouvernement doit tenir en compte, surtout à l'intérieur de pays. Chaque pays est différent. Ça peut effectivement créer des désordres, tant au niveau économique et de cohésion sociale. Donc je pense que ça, c'est les calculs que les pays du Golfe font. Et ils ont moins à perdre en donnant de l'argent. On parle vraiment de pays, ils sont tout petits, le Koweït est tout petit, les Émirats sont tout petits, ils ont beaucoup d'argent par contre. Donc ils préfèrent investir en infrastructure, aussi en mosquées, plutôt que d'accueillir des réfugiés.
Pascal aurait une question.
Oui, moi je voudrais aborder un aspect particulier du peuple syrien, si on peut dire comme ça. Moi, on m'a dit, des Syriens eux-mêmes m'ont dit que les Syriens, c'était pas du tout un peuple de voyageurs. On avait reçu d'ailleurs dans une émission il y a un an et demi une réfugiée syrienne qui nous disait, moi quand j'étais en Syrie, j'imaginais pas qu'à l'extérieur de la Syrie on pouvait manger autrement, vivre autrement. Quel est le choc psychologique pour ce peuple qui était qui était pas vraiment voyageur, quoi, comme ils le disent?
Aboud Hadjar, est-ce que cette question résonne?
Oui, je partage cette remarque. C'est vrai, le peuple syrien ne voyageait pas beaucoup avant la guerre. Mais il ne faut pas oublier que la diaspora syrienne est très importante dans le monde entier. Donc, on ne voyage pas autant que les Européens, parce qu'on peut-être on n'a pas le bon passeport pour voyager. Donc, on a besoin d'un visa pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller dans n'importe quel pays du monde. Donc, ça peut être lié à ça. Mais ça n'empêche pas que le peuple syrien est très ouvert à toutes les cultures. En plus, c'est un carrefour de civilisation. Donc, il y a un choc, mais en même temps, le peuple syrien est résilient. Donc, il peut s'adapter avec la crise. Et là, de plus en plus, à travers les réseaux sociaux, on voit par exemple des exemples réussis des Syriens qui sont partis à l'étranger, en France, en Allemagne, des étudiants, des jeunes étudiants qui passent leur bac et qui ont des mentions bien et parfois très bien. Et en revanche, ça fait que 2 ans et 3 ans qu'ils habitent par exemple en France. Donc voilà, donc ça c'est mon point de vue.
Abou Hadjar, pourquoi, à votre avis, l'opinion européenne découvre l'exode syrien à l'été 2015 ?
Oui, parce que depuis l'été 2015, l'Europe est confrontée au défi de migration et de demande d'asile surtout. Selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, donc on parle de plus de 300 000 migrants, voilà le terme, qui ont traversé la Méditerranée en 2015, donc jusqu'au août. Donc il y a une forte augmentation par rapport à 2014. Donc ce chiffre a créé quelques réactions de panique. Par exemple, la construction d'une clôture de barbelés à la frontière serbe avec la Hongrie. Cependant, à mon avis, ce chiffre, me semble minime face aux 5 millions de réfugiés enregistrés sur les listes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sachant qu'il y a des doutes autour de ce chiffre. Il y a une étude qui a été publiée par une université prestigieuse au Liban, c'est l'Université Saint-Joseph, sur le nombre des réfugiés syriens au Liban. Et donc, il y a beaucoup de réfugiés syriens qui ne sont pas inscrits sur les listes des organisations onusiennes. Donc voilà, donc, il y a beaucoup plus que ça.
Bien. Merci pour ces explications. Pour clore donc cette deuxième partie consacrée à différents aspects de l'exode que les Syriens font lorsqu'ils quittent leur pays à cause de la guerre, je vous propose d'écouter encore une fois un extrait d'interview mené par Pascal auprès de Brigitte Tonon de l'ONG Première Urgence et portant sur les problèmes sanitaires que rencontrent les réfugiés.
Aujourd'hui, ont besoin de, en termes de santé, on retrouve des pathologies que les personnes avaient donc dans leur pays d'origine et certaines pathologies qu'ils ont acquis lors du trajet ou à leur arrivée. Donc, on retrouve notamment pas mal beaucoup de pathologies dermatologiques, dont par exemple la gale, qui est assez fréquente. On retrouve beaucoup de pathologies ORL, donc des sinusites, des laryngites. Sont également dues aux conditions de vie. Certaines personnes souffrent de maladies chroniques qui ont été le plus souvent diagnostiquées dans leur pays d'origine. Donc, par exemple, on retrouve des personnes souffrant de diabète, d'asthme, d'hypertension, également de problèmes cardiaques. Nous avons vu plusieurs personnes également souffrir se plaindre de douleurs rhumatologiques qui peuvent être liées aux conditions de transport. En termes psychologiques, on pense également que les personnes souffrent de souffrances psychologiques, toujours liées à ces trois scénarios, hein, qui sont les traumatismes qu'ils ont vécu dans leur pays, puis un trajet qui a pu s'étendre, comme je le disais tout à l'heure, entre 2 semaines ou 1 mois avant d'arriver en France et après les conditions d'accueil à l'arrivée qui peuvent être parfois très difficiles.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, les Voix du Crépuscule, en direct du musée du Quai Branly. C'est en ce moment où vous entendez le groupe Eva, de musique électro-ethnique, un groupe équatorien non arrivé en France, mais en exclusivité sur les Voix du Crépuscule, dont je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'ils font sur Internet, parce que c'est vachement intéressant. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, le gouvernement équatorien l'a dit aussi, puisqu'ils ont gagné un concours. Donc, ils ont fabriqué un CD installation artistique qui est magnifique. Et vous avez entendu la piste qui s'appelle « Caminar a donde sea ». Ça veut dire « marcher n'importe où, marcher vers on ne sait où », un peu comme les réfugiés d'ailleurs. Les Voix du Crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
Après avoir parlé dans la première partie de cette émission des raisons qui poussent les réfugiés syriens à quitter leur pays et d'avoir traité des aléas de l'exode, de la traversée dans la deuxième partie, nous allons consacrer cette troisième partie à l'accueil dans la ville ou le pays de destination une fois la traversée achevée. J'avais initialement prévu de parler de l'installation, mais Giulia Galluccio, l'une de nos invitées, a questionné la question. Elle n'était pas tout à fait convaincue qu'on puisse parler d'installation.
Oui, c'est exact. Oui, je le dis parce qu'effectivement, comme je le disais aussi auparavant, la perception des Syriens ne cesse de changer au cours des événements, comme le disait aussi About. En fait, le fait de l'intervention de la communauté, de cette coalition internationale en 2014 et aujourd'hui, en septembre donc 2015, de la Russie, ne pose pas les Syriens dans la position d'envisager un futur stable. Donc, si avant ils se positionnaient dans les pays voisins, la Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, aussi l'Égypte, là, donc dans des camps de réfugiés que par définition sont des logements temporaires, ils se retrouvent dans un recalcul, parce que c'est pas que les acteurs politiques qui font des calculs, mais aussi les gens normaux. Et là, le recalcul est de considérer donc une installation, pas dans un camp réfugié, mais dans les pays avec un futur plus riches, donc les pays du nord, de la Suède, l'Allemagne, mais beaucoup n'ont pas encore choisi leur destination. Aujourd'hui, j'entendais un Syrien dire « je ne sais pas encore où aller, j'aimerais aller aux États-Unis, j'ai pensé à l'Allemagne, mais il fait trop froid, je suis habitué à un climat un peu plus chaud ». Donc voilà, et c'est tout est encore dans une phase de recalcul.
D'après les connaissances dont on dispose, quelle est la proportion de réfugiés dans des pays voisins qui sont installés dans des camps? Est-ce qu'on connaît ces chiffres?
Proportion
C'est-à-dire, il y a 10 personnes qui partent en Turquie. Combien parmi elles sont dans un camp des réfugiés en Turquie?
Non, moi j'ai su en ce moment, ces derniers mois, en tout cas, que la tendance a changé. C'est-à-dire que les gens sont en train de quitter les camps. Donc voilà,
quelles sont les raisons pour le
choix? Les raisons sont différentes. Un peu les a nommées justement Aboud, c'est-à-dire les conditions des camps sont de plus en plus détériorisées à cause de l'afflux toujours de plus en plus fréquent des personnes qui quittent la Syrie à cause des frappes. Et donc les conditions qui changent, aussi l'élan initial des populations locales a changé, c'est-à-dire au début tous contents d'accueillir, etc. En plus ils sont tous très habitués à accueillir des réfugiés, avant c'était les Palestiniens, puis les Irakiens, aujourd'hui les Syriens. Et ça a changé parce que voilà, l'inflation a augmenté, il y a des conséquences économiques, les loyers aussi ont augmenté, il y a le manque de travail. Donc là, ils ne sont plus perçus comme un élément enrichissant. L'élan, disons, a changé. Voilà.
Aboud Khadjar, est-ce que par hasard vous avez entendu de la bouche des Syriens que vous avez croisés récemment des témoignages de première main sur les conditions de vie dans des camps de réfugiés?
Oui, en entendant parler des conditions... des camps des réfugiés à travers justement des témoignages, par exemple la qualité des réseaux d'assainissement, d'eau potable, La situation de plus en plus est déplorable dans les camps des réfugiés. C'est lié justement aux afflux massifs des réfugiés. De plus en plus, il y a des réfugiés en provenance de la Syrie. Mais il y a un autre aussi, il y a un autre point qu'on oublie, qu'on n'évoque pas, qui concerne les réfugiés en dehors des camps. Ils souffrent aussi, parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc, vu le manque d'une politique d'intégration dans les pays limitrophes, ils se trouvent dans une situation très difficile. Et du coup, comme disait Julia, ils essayent, ils réfléchissent pour trouver une solution durable. Et du coup, ils commencent à trouver le chemin d'exode à travers plusieurs possibilités. Il y a une possibilité qu'on oublie aussi qui concerne les familles qui ont des proches en Europe. Par exemple, je connais qu'il y a des familles franco-syriennes qui s'occupent de leurs proches en envoyant des lettres d'invitation au consulat de France à Beyrouth ou à Istanbul, etc., pour accueillir leurs proches. Donc il y a pas que le chemin d'exode qu'on connaît tous, mais il y a d'autres aussi moyens d'exode.
Est-ce que, de même que les réfugiés dans les pays voisins commencent à envisager la possibilité de partir plus loin, par exemple en Europe, est-ce que les déplacés internes commencent aussi à envisager la possibilité de partir à l'étranger ?
Bien évidemment. Bien évidemment. Par exemple, les réfugiés qui se trouvent... la personne qui se trouve dans le même pays, en Syrie, c'est considéré comme déplacé. Donc, les déplacés internes essayent de trouver un moyen pour quitter la Syrie vers le Liban. Mais c'est difficile en ce moment parce qu'on a besoin d'un visa. Donc, c'est tout récent. Ça fait depuis février 2015.
Est-ce que vous connaissez les conditions d'obtention de ces visas ?
En fait, c'est à la frontière. Il faut justement montrer qu'on a des moyens financiers autour de 2 000 $, je pense, entre 1 000 $ et 2 000 $ par personne et une réservation d'hôtel pour toute la durée de séjour au Liban.
Et ça correspond à la situation de combien de réfugiés ?
Ça correspond à la classe aisée de grandes villes syriennes, de Damas et d'Alep, et qui ont déjà d'autres nationalités, en fait. Ces gens se déplacent facilement sans aucun problème.
On voit bien que c'est un cas bien connu de migration choisie.
Oui.
Giulia Galluccio, par rapport aux pays voisins, donc on a parlé des camps des réfugiés, est-ce qu'il y a d'autres sorts qui attendent les réfugiés lorsqu'ils choisissent de ne pas s'installer dans un camp ? Est-ce que ce sort varie selon qu'on soit en Turquie, en Jordanie ou au Liban ? Par ailleurs, quel est l'accueil que les locaux réservent aux Syriens, parce que j'imagine que la réputation des Syriens n'est pas la même en Turquie, au Liban et en Jordanie. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur...
Oui, certes. Disons que ça dépend des pays en pays. En fait, la Turquie, par exemple, a répondu avec des mesures adaptées. Elle a ouvert 22 centres. Elle a ouvert en 2014, selon en tout cas les propos recueillis par Hanna Jaber, chercheuse associée à la chaire Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. La Turquie, en 2014, elle a créé la Direction générale des migrations. Elle a même ouvert la possibilité de donner la nationalité turque aux Syriens d'ascendance turque et des assouplissements des politiques de délivrance des permis de travail. Donc, elle a vraiment adopté des mesures ciblées. On ne peut pas dire le même pour le Liban, mais le Liban est aussi un pays différent. Il ne fait pas 75 millions d'habitants, le territoire est beaucoup plus petit. Le Liban déjà souffre des réfugiés palestiniens qui ne se sont jamais intégrés, ou mieux, qui n'ont pas eu les possibilités. Ils sont renfermés dans ces camps de réfugiés, mais qui n'ont rien de civil. C'est-à-dire que ce sont vraiment, ils sont laissés à la détresse. Et Nahr el Bared, Shatila, il y en a d'autres, Ain al-Helou, rien de doux, parce que Helou est en arabe veut dire beau, rien de beau dans ces camps. Donc vraiment, et déjà en 2013, il y avait des affrontements entre la population locale et les réfugiés syriens. Parce que vu comme voilà, ils avaient des aides financières, ils avaient des possibilités. Et cela a créé des tensions entre réfugiés et réfugiés, réfugiés palestiniens, réfugiés syriens, entre réfugiés, réfugiés, réfugiés syriens et syriens, et population locale. Donc ça aussi, c'est un fait bizarre.
Oui, juste, je voulais simplement réagir par rapport à ce que vous disiez. Cette tension, c'est quelque chose de récurrent dans le problème de l'accueil des migrants. Bon, même si le terme est un peu galvaudé, je le prends parce que c'est celui que les médias m'ont bien mis dans la tête. C'est le cas même à Paris. C'est-à-dire que c'était le cas au sein des camps d'Austerlitz qui viennent d'être évacués. C'était le cas au sein du camp de la Porte de Saint-Ouen où beaucoup de Syriens venaient. Alors des Syriens qui venaient pour la fête de l'Aïd. Donc il y a, pendant quelques mois, vous avez entendu parler peut-être des tentes de Syriens à Paris où il y avait un mélange de Syriens du voyage, des Roms syriens certainement, et d'autres réfugiés plus fraîchement arrivés qui venaient simplement parce que, en fait, dans le coin, eh bien, il y avait une sorte de réseau d'information, une centralité minoritaire, comme disent les ethnographes de Paris, syriens, où les gens s'entraidaient pour faire les démarches pour obtenir des asiles. Mais à chaque fois, le manque d'organisation dans l'administration de l'aide finissait par créer des tensions au sein des camps, aussi fortes que si on ne les avait pas aidés. C'est-à-dire que à Austerlitz, et en particulier, ça m'a marqué parce que moi, j'habite pas loin, on a fini par demander d'arrêter aux gens d'aider parce que il y avait trop de dissensions dans la répartition des aides entre, par exemple, les Africains qui sont francophones et ceux qui sont plutôt anglophones. Bon, il y avait beaucoup de problèmes et donc on a fini par demander d'arrêter de fournir des habits et des vivres.
Merci. J'aimerais bien ajouter un point qui concerne aussi le Liban. J'ai visité le Liban récemment et il faut savoir que le Liban, c'est un pays très particulier. Donc, il y a un système de gouvernance qui est basé sur des principes confessionnels.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quels sont ces principes confessionnels?
Moi, je ne suis pas très politique, mais je sais que suite à la guerre civile au Liban, à la fin de la guerre, il y avait l'accord du Taif où on a distribué les pouvoirs entre les différentes communautés religieuses, les chrétiens maronites, les musulmans sunnites et chiites. Donc, ce que j'ai constaté quand j'ai visité le Liban récemment, que les réfugiés syriens s'installent en fonction de ce système confessionnel, c'est-à-dire les chrétiens de Syrie se trouvent dans la région de Kesselwen et le mont du Liban. Les musulmans sunnites de n'importe quelle ville syrienne, Homs, Damas, Alep, se trouvent à Beyrouth. Donc il y a cet impact aussi confessionnel sur la répartition des réfugiés syriens au Liban.
Est-ce que c'est souvent le critère, je dirais, prioritaire, qui passe par exemple avant la classe sociale?
Parfois oui, mais moi je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Par exemple, je prends l'exemple des chrétiens qui s'installent à Jounieh, une ville qui se trouve à 20 km au nord de Beyrouth, à majorité chrétienne. Ils ont choisi cette ville parce qu'il y a des églises qui peuvent aider ces réfugiés chrétiens dans leur démarche, dans leur vie quotidienne. Je pense que cela joue un rôle très important, par exemple aussi pour d'autres communautés dans d'autres endroits au Liban où il y a une majorité chiite et sunnite.
Qu'en est-il des réfugiés syriens qui viennent en France, et en particulier à Paris? C'est-à-dire, à quoi correspond la France dans leur imaginaire? Quel est le rapport entre les attentes qu'ils peuvent avoir et la réalité de leur arrivée? Et surtout, comment se passe l'installation à Paris?
En fait, j'ai l'impression, suite... à quelques témoignages que j'ai eus à travers les différentes occasions, j'ai l'impression que la France n'est pas une destination prisée par les Syriens. Donc, les Syriens, comme disait Julia, commencent à faire des recherches sur les destinations. Par exemple, ils voient qu'en France, il y a des taux de chômage qui sont très élevés. Donc, ils préfèrent de choisir l'Allemagne parce qu'il y a plus d'opportunités. La plupart des Syriens qui viennent en France, la plupart, mais pas tous, ils ont des proches. Donc, pour moi, je pense que l'arrivée des Syriens en France, c'est le parcours de combattant. Donc, il y a les démarches qui sont très compliquées.
Par exemple,
La demande d'asile, on commence par la préfecture. Et c'est tellement restreint, surtout la première demande. Donc, par exemple, dans certaines préfectures, c'est un jour par semaine. Et il faut être à 2 heures du matin devant la préfecture pour avoir un ticket. Mais il ne faut pas oublier que cela lié aussi que la plupart des structures en France sont saturées. Donc, il y a des engagements à Paris. Moi, je sais bien que, par exemple, la ville de Paris participe à l'organisation de l'arrivée des réfugiés en France dans les centres d'hébergement. Donc, récemment, Madame la maire Anne Hidalgo a lancé la plateforme jemengage.paris.fr où on peut proposer des actions de bénévolat. Et il y a certaines universités, là je parle juste à l'échelle de la région Île-de-France et Paris en particulier, il y a des universités françaises qui ont mis en place un dispositif particulier pour accueillir et accompagner les réfugiés syriens, comme par exemple Paris-Ouest-Nanterre. L'idée est de permettre aux étudiants d'avoir un niveau de français et d'intégrer les différentes formations de l'université. Bien sûr, il y a des difficultés d'accès au logement. Donc, ça, c'est surtout en Île-de-France. Il y a une plateforme qui s'appelle Calm, qui a été lancée. C'est, disons, Airbnb pour les réfugiés, où on propose des hébergements pour les réfugiés chez les habitants. J'avoue, il y a une rareté des logements sur le marché. Il y a aussi d'autres difficultés liées à l'absence, par exemple, des garants, ce qui inquiète les propriétaires. Du coup, ils évitent de louer leur appartement aux réfugiés. Est-ce qu'il est bien que les Syriens s'organisent à Paris ? Donc, par exemple, il y a une page Facebook qui s'appelle la page d'entraide entre Syriens de Paris, où on propose des aides, des consignes, des informations sur les différentes démarches administratives. Je trouve que c'est un élément très important dans la vie commune entre les Syriens, la vie associée. Ça peut, après, donner lieu à une association, on ne sait jamais. Mais je trouve que c'est très intéressant comme démarche.
Julia Gallucci, est-ce que vous êtes en contact avec des Syriens qui chercheraient à s'installer à Paris dans ce contexte ?
Non, je connais des Syriens qui se sont installés à Paris directement.
Qui se sont installés. Et oui. Est-ce qu'ils sont passés par ce type d'interface, par ce type
Et de... j'ai un ami en fait qui a épousé une amie à moi française au Liban. Il était syrien. Il est syrien, pardon. Il est passé. Il est arrivé au Liban. Et il s'est marié avec ma copine. Et puis, ils sont venus en France, tous les deux, mariés et contents. Et si elle voudra témoigner, elle est ici aussi. Donc, voilà. Elle pourra le dire mieux que moi, l'expérience de son mari par rapport à son installation en France.
Excellent. Avant clore cette troisième partie donc, de l'entretien consacré à l'accueil des réfugiés dans le pays de destination. Nous allons écouter un extrait d'interview mené par Pascal auprès de Brigitte Tonon, à nouveau de l'ONG Première Urgence, et cette fois sur les conditions d'accueil des réfugiés dans le Val d'Oise.
Aujourd'hui, au niveau de Cergy, on a accueilli à peu près 96 personnes qui sont accueillies dans une base de loisirs. Là, vous avez tous les dispositifs en place pour l'accueil de groupes assez nombreux. Sur Montmorency, par contre, c'est dans une ancienne maternité qui a nécessité un petit peu des aménagements pour permettre un accueil satisfaisant de toutes les personnes.
Est-ce qu'au bout d'un moment, ces gens arrivent à quitter ces lieux pour trouver un appartement ?
Oui, aujourd'hui, il y a une aide qui leur est donnée pour trouver du logement. Donc, il y a déjà quelques familles qui sont parties, notamment de Cergy. Ce sont notamment des familles nombreuses qui ont déjà pu être logées. À partir de leur arrivée, donc, il y a cet enregistrement qui est facilité grâce à l'OFPRA et à l'OFI. Et à la suite de cet enregistrement, les personnes reçoivent un récépissé qui, eux, leur permet d'ouvrir des droits. Et donc là, nous parlons de droits à l'emploi, au logement, à la couverture santé et à des indemnités.
Émile va nous présenter rapidement un ouvrage à propos de l'entretien dont le titre est « Des murs entre les hommes ».
Oui, voilà. Alors, je voulais brièvement évoquer ce livre qui est ce qu'on peut appeler un beau livre. Un beau livre qui parle d'un sale sujet peut-être, mais un beau livre. Donc c'est des belles photos sur pas mal d'atrocités dans le monde. Les murs les plus improbables qu'on peut construire, la façon dont on peut déchirer des villes et des territoires de la plus belle façon, avec des barbelés tout autour du Bangladesh en Inde, avec des murs de béton qui vont jusqu'à l'océan Pacifique au Mexique, avec des murs de béton qui ceinturent un peu toutes les communautés palestiniennes en Cisjordanie. Enfin, il y en a 10, c'est pas exhaustif, mais les plus gros y sont. Et vous avez à chaque fois des photos très actuelles et des reportages faits par des spécialistes, donc Alexandra Novoselov et Frank Neisse, qui sont très informés, très bien documentés, fluidement écrits. Donc c'est un livre que, étant donné la thématique d'aujourd'hui, je recommanderais à la lecture. Mais pour finir avec les livres aujourd'hui et clôturer aussi l'émission avant que vous ayez la parole, donc que vous puissiez témoigner ou poser des questions à nos invités, je voudrais donner la parole à une nouvelle voix crépusculaire, c'est Béatrix, qui renoue avec la première tradition des voix du crépuscule, la tradition, de l'anthropologie sociale traditionnelle, puisqu'on a commencé cette émission il y a déjà 3 ans et demi, avec la fleur au micro, partant aux quatre coins du monde, en Amazonie, au Groenland, en Australie. Vous parlez essentiellement des peuples autochtones et de l'ethnologie telle qu'on la pratique traditionnellement, comme dans des laboratoires comme celui de Lévi-Strauss et maintenant de Descola, le laboratoire d'anthropologie sociale. Eh bien, pourquoi Béatrix va renouer avec cette tradition ? Parce qu'elle va vous parler d'un roman qui vient juste de sortir, qui est tout frais, qui s'appelle « La septième fonction du langage » et qui parle de linguistique, puisqu'il parle de Roland Barthes. Et Roland Barthes a joué un grand rôle dans ce mouvement intellectuel qu'est le structuralisme et dont l'anthropologie sociale française, surtout, est, la principale figure de proue dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on a voulu donner la parole à la littérature dans cette émission, ce qui est une première, et également une première pour toi, Béatrix. Donc je te laisse la parole.
Bah, merci Émile. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote que quelqu'un aurait pu répéter à quelqu'un d'autre, qui l'aurait répété à quelqu'un d'autre, qui au final me l'aurait répété, laissons cette éventualité satisfaire mes intentions narratives. Donc la scène se déroule de nuit, dans le décor bien connu d'un bistrot quelque part en France. En bout de table, nous retrouvons notre héros, un Gérard désinhibé, qui s'agite depuis maintenant 10 minutes devant des convives de plus en plus silencieux. Enfin, le voilà qui conclut son discours politisé par un rafraîchissant « ta gueule, t'es con, j'ai raison » avant d'abattre son poing sur la table. Valérie file fort d'un « oui, Gérard » et celui-ci, ne voyant que les hochements de tête sans y déceler les regards gênés, afficha un air satisfait avant de s'enfoncer dans sa chaise. Mais jugeant l'orateur avec lucidité, quelqu'un parmi les blasés de la première heure pensa très fort qu'il était bête et Roland Barthes de sa tombe d'acquiescer silencieusement. Bienvenue dans le monde merveilleux des mots, du langage, de la rhétorique, des joutes verbales, où celui qui maîtrise l'art de convaincre et de persuader peut gouverner plus paisiblement qu'avec une armée surentraînée. C'est ici que nous plonge Laurent Binet pour son deuxième roman, La septième fonction du langage, paru à la rentrée et récompensé par le prix du roman Fnac. Le point de départ, justement la mort de Roland Barthes, renversé par une camionnette le 25 février 1980, ce qui, pour l'auteur, n'avait rien d'un accident. Mais alors qui a tué Roland Barthes et pourquoi ? Imaginez qu'il existe une méthode, un pouvoir qui permette à quiconque de gagner son auditoire, interférant avec les mécanismes qui accompagnent la création d'une opinion, guidant notre réflexion en nous laissant l'illusion qu'elle nous est propre. Imaginez qu'à la fin de chacun de vos discours, il n'y ait qu'une vague de franche approbation et de sourires bienveillants émanant d'une foule conquise qui à présent vous appartient. Imaginez qu'une telle fonction existe. Certains seraient sans nul doute prêts à tuer pour l'obtenir. C'est donc s'inspirant des travaux du linguiste russe Jacobson, qui élabore au début des années 60 un modèle linguistique divisé en 6 fonctions, que Laurent Binet en pose une 7e, qui serait l'ultimatum rhétorique pour lequel Roland Barthes a été assassiné. C'est donc un étrange couple d'enquêteurs qui va se former et se pencher sur ce meurtre. D'une part, un policier volontaire mais imperméable aux usages du monde universitaire, et de l'autre, un jeune prof de Nanterre, brillant mais peu sûr de lui, qui va peu à peu lui servir d'interprète. C'est mêlant donc la fiction et la réalité, en faisant référence aux grandes figures des milieux intellectuels des années 80, telles que Sartre, Deleuze, Derrida, Soler, que l'auteur va retranscrire leurs travaux, tout en fantasmant à ces intellectuels une intimité qui bien souvent fait sourire. Entre ouvrages de vulgarisation de linguistique et de sémiologie et vrais thrillers policiers, Binet fait le pari de proposer un livre qui divertit en même temps qu'il instruit, dans un style à la fois original et contemporain, agréable et facile à lire. On referme donc le livre, satisfait d'une intrigue bien menée, avec l'ambition peut-être d'être plus critique la prochaine fois que l'on recevra le discours d'un politicien.
Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
Et nous arrivons donc à la fin de l'émission. Mais avant clore, c'est le moment où le public prend la parole. Donc n'hésitez pas à lever la main pour nous faire part d'un témoignage, pour poser une question à nos invités, pour faire une remarque, une suggestion, ou peut-être simplement nous insulter.
Allez-y. Ah, ta gueule, j'ai raison, t'es con.
C'est tout.
Je savais que cette dernière option pouvait être dangereuse.
Je suis en train de réfléchir à une question. Mais voilà, c'était un petit trait d'esprit.
Très bien. Merci, le jeune homme réfléchit. Est-ce que quelqu'un veut l'aider en posant une question intelligente ou un témoignage?
Moi, je vais avoir une question. C'est plus sur le nombre de réfugiés ou de migrants. Vous dites qu'il y en avait plusieurs centaines de milliers en Allemagne, il n'y en a que 8 000 en France. Est-ce que c'est 8 000 qui sont comptabilisés ou c'est 8 000 qui sont estimés présents sur le territoire français ?
En fait, quand on parle de réfugiés, c'est souvent parce qu'ils sont enregistrés. Donc oui, ce sont toujours des chiffres qui ne sont pas précis.
Du coup, il y en a peut-être autant en France qu'en Allemagne, mais finalement, ils ne sont pas comptabilisés. C'est juste que les autorités françaises ne sont pas disponibles et n'accordent pas ces demandes d'asile.
Non, ça, je ne crois pas. En connaissant les autorités françaises qui sont assez strictes, je pense que s'ils trouvent des personnes qui ne sont pas enregistrées, soit ils les enregistrent tout de suite, soit je ne sais pas.
Du coup, il y en a quand même beaucoup. S'ils sont en France et que donc ils sont... On intervient et on ne leur donne pas le droit d'asile. Est-ce qu'on les ramène à une frontière, à laquelle ? Est-ce qu'on les ramène en Syrie ? Est-ce qu'on les ramène en Turquie ?
Il y a le dernier plan d'action de la Commission européenne que j'ai pu voir. En fait, prévoit justement, vu cet afflux majeur qui caractérise ces derniers mois et qui vise l'Europe. Angela Merkel, elle est allée en Turquie pour demander à Erdogan s'il peut récupérer des réfugiés de l'Europe. Voilà, s'ils peuvent, disons que toutes les personnes qui ont été refusées d'avoir le droit d'asile, donc on dit redoutées, le plan d'action prévoit que la Turquie les réadmette sur son territoire. Qu'il les réadmette sur son territoire et tout ça en échange, bien sûr, de 3 milliards pour faire face à l'urgence pour la Turquie, mais aussi de la reprise des négociations de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc, effectivement, les réfugiés deviennent un peu un enjeu majeur
Et aussi une catégorie qui est souvent mobilisée aussi dans les discours politiques, et ça c'est très intéressant aussi à étudier. Mais voilà, ce sont des choses qui se sont en train de se développer et qui sont en cours de négociation et d'étude.
Petite dernière question, vous dites que... Excusez-moi, désolé. Vous dites que les autorités françaises sont très strictes, mais c'est pas à partir du moment où il y a un danger de mort ou danger pour sa propre vie que finalement les autorités accèdent à la demande d'asile en France ?
Les critères, franchement, de la demande d'asile, je les connais pas, donc je sais pas.
Juste, j'aimerais bien ajouter un point. Il y a parfois des Syriens qui se trouvent en France et qui ne sont pas enregistrés ou inscrits sur les listes des demandeurs d'asile en France par choix, parce qu'ils voulaient aller rejoindre la Grande-Bretagne. Donc, ils se trouvent à Calais, par exemple. Donc après, bien sûr, il y a d'autres types de réfugiés, mais bon, ça, c'est un cas qui mérite aussi d'être cité.
Oui, juste pour répondre brièvement à la question sur les critères pour le droit d'asile, il faut effectivement, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, ou, en deuxième ressort, la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui est à Montreuil, qui peuvent délivrer des titres de séjour de réfugiés, donc au titre du droit d'asile. Et elle examine effectivement le danger sur les personnes. Alors il y a une examination des dossiers individuels, mais qui est faite aussi selon une liste des pays considérés comme non sûrs. Et donc la Syrie en fait évidemment partie, mais c'est un enjeu politique pour les réfugiés, les communautés de réfugiés, par exemple en France les Bangladais ou les Sri Lankais, d'être sur cette liste de pays non sûrs, parce que les critères de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou de la CNDA sont plus ouverts pour leur donner ce titre de séjour.
Aoud Hadjar.
Juste un point qui concerne la France, j'ai jamais entendu parler que... Il y a un Syrien qui a fait une demande d'asile en France et sa demande a été refusée. Donc ça, c'est parce que la Syrie est considérée comme un pays qui n'est pas sûr, en danger. Et du coup, il y a deux types de titres de séjour qui peuvent être accordés aux Syriens demandeurs d'asile, soit un titre de protection de 1 an, soit un titre de statut de réfugié de 10 ans.
Il y aurait peut-être oui.
Non, pour compléter, en fait, l'OFPRA sur les réfugiés, c'est 97% pour les réfugiés syriens qui obtiennent le droit d'asile. Et les 3% qui restent, c'est parce que, par exemple, il y a des réfugiés d'autres pays qui veulent se faire passer pour réfugiés syriens, par exemple. Donc, en fait, ils n'ont pas vraiment la nationalité syrienne. Ils se disent, on est, je ne sais pas, on peut venir d'Égypte, on dit qu'on est syrien et on triche sur sa nationalité. Dans ce cas-là, ils font une demande en tant que réfugiés syriens, ils sont refusés. Mais il n'y a aucun risque, si on prouve qu'on est syrien, d'être envoyé en Syrie.
Tout à fait. Il y a un autre cas aussi qui concerne des Syriens qui ont fait des empreintes dans d'autres pays européens. Et du coup, la France, selon un accord qui est, je pense, que l'accord du plein, je pense, je ne suis pas sûr. Donc, elle renvoie les réfugiés au pays où ils ont fait des empreintes.
Autre question ? Il y avait une question ici, peut-être ?
Bonjour, enfin, rebonjour. J'ai deux questions. Alors, une première question concernant la destination favorite, préférée des Syriens. Voilà, des Syriens et des Libanais, historiquement. Ce sont le Chili et l'Argentine, et aussi le Brésil. Aussi le Mexique, mais un peu moins, le Brésil un petit peu moins. Et là, le Chili a une vraie expertise, alors pas simplement pour les Syriens, pour les Libanais, une vraie expertise dans l'accueil des réfugiés politiques et des réfugiés tout court. Et je voudrais, moi, savoir comment c'est possible, enfin, pourquoi finalement les Syriens vont en masse. Il prévoit en masse. Avant la guerre civile en Syrie, il y avait énormément de Syriens qui partaient là-bas, au Chili. Pourquoi aussi loin ? Pourquoi au Chili et en Argentine ? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est concernant quelles sont les associations qui... enfin, déjà, est-ce qu'il y a des associations qui préparent l'après-guerre civile, l'après-Daesh et la reconstruction, et comment, finalement, c'est en train de naître? Comment c'est en... est-ce qu'il y a une gestation d'associations, de mouvements, on va dire, de issus de l'exode, que ce soit en France ou en Allemagne, de gens qui se disent, bon, il faut penser à l'après.
Merci.
Aoud Hadjar.
Bon, en ce qui concerne la première question, oui, il y avait une sorte d'immigration à l'époque vers les pays de l'Amérique latine, surtout Chili, Brésil. Les Libanais, c'est plutôt Brésil. On parle de 7 ou 8 millions de Libanais au Brésil. Donc ça s'est lié à plusieurs choses, à des raisons économiques, à la fin de la période ottomane, et après il y a d'autres périodes où... En fait, c'est à plusieurs reprises, mais je ne peux pas vous répondre parce que je ne maîtrise pas le contexte. En ce qui concerne la deuxième question liée aux associations locales en Syrie qui agissent sur le terrain, c'est tout récent. C'est tout récent. J'ai rédigé un article sur cette question avec Youssef Diop, mon directeur de thèse, sur cette question, qui observe l'évolution du rôle des groupes naissants de la société civile syrienne qui participent à la gestion des urgences dans les zones de conflit à Alep. Et j'ai fait une sorte de typologie en précisant 4 catégories des associations. Il y a des organisations humanitaires syriennes très connues comme le Croissant arabe syrien, qui est reconnu d'ailleurs par le comité international de la Croix-Rouge. Il y a des comités aussi des bienfaisances de congrégations chrétiennes qui ont déjà des listes bien établies et qui font appel à d'autres associations en Europe, comme par exemple en France, il y a l'œuvre d'Orient. Il y a des groupes humanitaires d'ordre religieux comme les jésuites et les maristes bleus, mais malgré leur identité chrétienne, leurs actions de secours s'effectuent indépendamment de l'affiliation religieuse et politique de bénéficiaires. Donc, après, il y a des associations locales de solidarité. La création de ces associations s'effectue par des initiatives locales. Elles visent à proposer des services à tous ceux qui sont dans le besoin. Donc, ils commencent à préparer le contexte de dialogue pour la réconciliation, qui est pour moi une première phase de reconstruction, pour la reconstruction.
Il y avait peut-être une autre question, oui ?
Oui, à votre avis, comment on peut améliorer l'accueil des réfugiés, par exemple en France? Est-ce qu'on a un modèle qu'on peut imiter pour l'accueil des réfugiés?
Je donne mon avis personnel, mais justement, je n'ai pas fait le terrain, donc c'est que par rapport à ce que j'ai lu. Et je pense que la Turquie, dans ses premières phases, elle s'est activée. Et mais sinon, au niveau européen, non, je ne serais pas trop.
En fait, moi, je donne aussi mon point de vue. Donc, je pense qu'il faut trouver rapidement un accord commun entre les différents pays européens qui est basé sur des valeurs européennes. Je pense qu'il y a un écart entre certains pays de l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale. L'accueil des réfugiés, c'est une question très importante, mais aussi le fait qu'on cherche une stratégie pour stabiliser la présence des réfugiés dans les pays limitrophes doit être réfléchi, mais malheureusement, peu de moyens qui sont accordé pour cette question.
Moi, je voulais simplement donner un chiffre qui fait peut-être un peu peur. Il y a aujourd'hui à peu près 90 000 logements sociaux vacants en France. Donc il suffirait de réquisitionner par décret ces 90 000 logements sociaux. Et déjà, on pourrait attribuer 90 000 logements à ceux qui sont dans les CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile en France, à ceux qui sont dans la rue, à ceux qui sont, à ceux qui en ont vraiment besoin. Et ça, c'est simplement les logements sociaux. Le nombre de logements vides, je ne fais pas partie des associations qui répertorient et squattent, essayent d'occuper ces logements à Paris, en Ile-de-France, il y en a beaucoup. En tout cas, on pourrait, s'il y avait une volonté politique, à mon avis, accueillir beaucoup plus de réfugiés dans des bien meilleures conditions.
Juste une petite contradiction. Je suis pas d'accord avec vous, Émile. Je suis d'accord sur le chiffre des 90 000. Sur le chiffre, a priori, il y a entre 2 et 3 millions. Même l'État, c'est pas trop finalement de logements vacants. Au moins 2 millions. Donc, ce qui nous place, quand il y a eu la crise immobilière en Espagne, avec les 3 millions de logements vides, on s'est moqué de l'Espagne, mais ça nous place finalement pas en donneur de leçons vis-à-vis de l'Espagne ou autre, ou des États-Unis par exemple. Mais les 90 000 logements sociaux sont, par exemple, à Saint-Dizier, il y a beaucoup de logements sociaux, des centaines et des centaines de logements sociaux vides. La mairie doit à ses frais détruire des quartiers entiers. Les logements sociaux, à Bergerac aussi, il y a des logements sociaux. Alors les gens, il y a des gens qui s'installent à Bergerac. C'est une chouette petite ville, très sympa. Il fait beau. C'est une autre ambiance que Saint-Dizier. Mais les gens sont... On ne peut pas... comment dire, c'est très compliqué pour les Syriens qui arrivent. Il faut leur trouver un travail, des places, il y a des places en crèche, des places dans les écoles, et ces villes, notamment dans le nord-est de la France, voient les services publics partir, les casernes partir, et sont en il y a des gros problèmes financiers et administratifs, et ça serait rajouter un problème. C'est plus compliqué que ça.
Merci pour cette contradiction. On va continuer le débat plus tard. Oui, Martine, tu...
Nous arrivons, Émile, malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission.
Oui, voilà.
Et je profite donc pour remercier avant tout nos invités d'aujourd'hui, Giulia Galluccio et Abou Hadjar, pour votre participation à l'émission d'aujourd'hui. Je remercie également Pascal pour l'interview qu'il a menée, Béatrix pour sa chronique, et Émile pour plusieurs interventions et aussi pour le soutien.
Merci Martine, et je vous rappelle que l'émission sera diffusée le jeudi 12 novembre sur notre antenne et qu'on se retrouve nous en décembre pour une émission, cette fois une véritable double émission, parce qu'aujourd'hui on n'a pas pu tenir nos promesses concernant la comparaison avec le Mali, parce que l'enquête a révélé que c'était très difficile d'accéder aux réfugiés maliens qui ne sont pas en très grand nombre à Paris. Il y a beaucoup de Maliens, une grande diaspora malienne, en particulier à Montreuil, dont on parle beaucoup décidément ce soir, mais des réfugiés c'est autre chose. On consacrera donc une émission à la diaspora malienne en décembre, et également, pour rester dans la thématique du conflit au Proche-Orient, à la diaspora kurde. Merci à tous, et à très bientôt.